为什么叫木了鞠躬了？
Oui.
Ce que les gens viennent d'entendre, voilà, viennent d'entendre. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est venu à Daniel il y a très peu de temps. On aurait entendu ces choses-là.
Il y a très peu de temps, c'était en 89 quand on tournait le film sur Cézanne.
Ah bon, c'est pas
qu'on parcourait, l'Angleterre, et, etc., avec une espace. Qu'on avait un jeune chauffeur qui s'appelait Hopi, qui est le beau-fils de Dominique Paigny. Et celui-là écoutait du Schubert et du Schubert et du Schubert. À un moment donné, on en a eu marre. Et on lui a dit, mais est-ce que tu connais les suites pour violoncelle de Bach? Et il a dit non. Alors on lui a dit, bon, ben, on va écouter ça. Et là, il a fait une découverte extraordinaire. Et depuis, il écoute tout le temps les
concerts. Ce qu'on a découvert là, c'est que là-dedans, il y a vraiment plusieurs siècles de culture paysanne. Il y a toute la paysannerie allemande de plusieurs siècles. Et c'est ça qui fait la différence entre Bach et même des musiciens très grands plus tard, même Beethoven, etc. C'est que ceux-là n'étaient plus que des individus, ils étaient coupés. Et tandis que Bach, en tant qu'artiste plus grand ou moins grand que Beethoven, la question n'est pas intéressante, mais lui, il se faisait l'écho d'une tradition, disons, sans faire de démagogie, vraiment populaire et même paysanne séculaire. Et ça, c'est là-dedans. Il y a toute la paysannerie allemande, celle qui a été ensuite massacrée aux guerres de paysans, etc. Qui se sont d'ailleurs terminées à Strasbourg, avec l'aide du duc de Lorraine. Ça a été les derniers paysans massacrés, c'était les paysans alsaciens. Après qu'on avait ratissé et nettoyé l'Allemagne. Hein. C'est-à-dire avec l'aide de Luther... Et le massacre de Thomas Münzer et des autres.
Alors, on va revenir peut-être sur quelque chose qui est très important. C'est un peu Daniel qui m'a aiguillé là-dessus. C'est vrai que quand on voit vos films, hein, vraiment l'ensemble de vos films, on a l'impression que vous êtes plus que des passeurs, vous êtes des éveilleurs aussi. Moi, j'ai découvert pas mal de choses en voyant vos films. C'est soit, là j'avais noté deux, trois petits trucs. C'est vrai que dans vos films, il y a des choses à lire, des choses à entendre et des choses à voir. À lire, ça peut être Sophocle, Hölderlin, Kafka, etc. À entendre Bach et puis Schoenberg, on y reviendra tout à l'heure. Schoenberg, et puis à voir, bien sûr, c'est vos images.
Mais n'oubliez pas Corneille, parce que c'est tout
oui, la langue française. Bien sûr.
Mais alors, j'allais dire, pour faire un petit paradoxe, il y a des choses à lire. J'ai d'abord cru que vous alliez dire les sous-titres quand c'est pas.
On est en émission de cinéma sérieuse.
Il faut quand même le dire, c'est pas pareil pour les gens, pour des Français ou des Italiens quand c'est des films allemands, parce que le film passe à travers une lecture, qui est une opération, disons, conceptuelle, pour employer un grand mot. Et il passe pas par les sens, en l'occurrence les oreilles.
Passe pas d'abord.
D'abord. Et ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que. Moi, je ne dirais pas la deuxième partie. Là. Je ne dirais pas qu'il y a des choses à lire, c'est-à-dire Sophocle, Corneille, etc. Je dirais que ce n'est pas à lire, c'est à entendre. Parce que ce qui nous a intéressés dans tous ces textes-là, qui étaient des textes qui nous résistaient et avec lesquels on se battait d'abord nous, en premier lieu, avant de les livrer comme cadeau, et le résultat de notre lutte et de notre... de la lutte avec l'ange et de notre lutte avec le texte, en faire le cadeau de du résultat de notre travail, de notre enquête à d'autres gens, et c'était de les transformer, de les exproprier à la page imprimée, une espèce de nostalgie au début inconsciente d'un retour à une époque où la culture était orale. C'est-à-dire que ces textes-là, avant l'invention de M. Gutenberg, qui a été un progrès, mais qui a été également, qui a noyé et qui a tué la culture orale. Dans nos films, il y a un peu, j'espère, une nostalgie de l'époque où les gens se rencontraient autour du feu, il n'y avait pas de télé, On se racontait des histoires. Il y en a qui les racontaient mieux, il y en a qui étaient même spécialisés dans le fait de raconter des histoires, mais tout ça se passait oralement.
Non, mais quand je veux dire à lire, pour revenir un peu à ce que je disais, c'est que c'est vrai que quand on voit vos films, et ben après, on a envie quand même d'aller voir, d'aller chercher le texte. On a envie d'aller chercher Hölderlin, on a envie d'aller chercher.
Oui, mais c'est pas obligatoire. Il y a même des
gens. C'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. Enfin, pour moi, je trouve ça nécessaire. Ça fait partie de.
Oui, mais c'est arrivé même à des gens qui lisent pas, mais pour moi, c'est pas nécessaire. Évidemment, on était contents quand il y a eu des gens qui, après avoir vu Leçon d'histoire, qui sont 30 pages de prose de Brecht prise non pas à un texte théâtral, à une œuvre théâtrale, mais à un roman. Il n'en a pas écrit beaucoup, des romans. Et ces 30 pages-là, quand le film est passé à la télé en Allemagne, la deuxième fois, à une heure un peu plus normale, ils ont reçu des lettres de gens qui disaient « Qu'est-ce que c'est que ce texte ? Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme qui s'appelle Brecht ?» etc. C'est ça qui nous intéresse. Des gens qui ne savaient pas qui était Brecht, qui ne connaissaient pas le texte et qui voulaient savoir comment ça s'appelait, de quand ça datait. Mais néanmoins, je pense que c'est pas obligatoire de revenir au texte écrit.
Non, c'est pas obligatoire, mais moi, je pense que c'est une deuxième partie de comme après entendre, revenir après à Schoenberg, à découvrir par nous-mêmes et faire notre travail de se coltiner un peu.
Ouais, mais par exemple, pour pousser un petit peu.
Allons-y.
quand c'est de la musique, vous dites pas que vous avez envie de lire la partition. Vous l'avez entendu celle-là. Alors là, il y a une différence. Pourquoi? Et pour nous, on essaye de traiter le texte écrit, qu'il soit de Brecht, de Schoenberg ou de je ne sais pas qui, ou de Böll, contemporain ou pas, ou très, très compliqué comme Mallarmé ou ancien comme Hölderlin, de le traiter comme une partition musicale. Alors la partition musicale, vous n'avez pas envie de vous la colter après avoir vu. Alors vous savez lire, mais nous, si on veut être un peu démagogique, notre rêve, ça serait de faire presque un public qui ne sait pas lire, ou qui ne lit plus, ou qui n'a plus envie de lire, ou qu'on a dégoûté de lire.
Mais peut-être peut-être que l'étape suivante dans mon cheminement, ça serait justement d'aller dépouiller et chercher mais ça sera plus tard.
Mais quand j'ai dit à l'époque que bien des gauchistes m'ont reproché, ils ont taxé ça de volontarisme, j'ai dit, pour provoquer les Parisiens, j'ai dit, autant c'est fait pour les ouvriers de Renault. Je pensais qu'ils rencontraient un texte de Corneille, ils savaient vaguement qu'il était Corneille par le site ou je sais pas quoi, ou ils savaient rien du tout. Et ils rencontraient un texte de Corneille et un produit de plus dense et de plus chouette et de plus ironique et de plus drôle, etc.
Non, ce que tu disais, c'est éveillé. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, votre cinéma, il éveille. Moi, il y a des textes que je ne connaissais pas du tout. Bon, je ne connaissais pas du tout Hölderlin, par exemple. Je suis allée m'acheter les œuvres d'Hölderlin après avoir vu les Hölderlin.
C'est pour ça que ça a beaucoup. Ça s'est vendu 10 fois mieux que le livre de Soga, bizarrement.
Et parce que, j'ai découvert Hölderlin grâce à vos films. Et alors cela dit, sur la musique de Bach ou de Schoenberg, c'est pareil. Bon,
oui, mais pour Hölderlin, vous étiez dans la situation de l'ouvrier de
Renault. Moi, je ne viens pas de l'université, j'ai travaillé 12 ans dans un prix unique, donc je suis autodidacte. Hein. Et les choses, on les apprend par ça. Même cela dit, sur la culture de l'ouvrier, moi, je crois que, et ça, pour justement, moi je me rappelle dans ma boîte, les filles, peut-être la génération avant, elles lisaient beaucoup. Et elles lisaient, il y a quelque chose qui s'est perdu. Quelque chose qui s'est perdu parce qu'entre les filles, moi j'ai arrêté de travailler dans les grands magasins, et les magasins populaires en 80, j'y ai travaillé 12 ans. Les filles qui avaient 30, 40, 40, 50 ans, qui avaient fait les grèves de 36, elles lisaient. Et les jeunes ne lisaient déjà plus. Parce que c'était la télé et c'était et là je crois qu'il y a une différence et elle connaissait même un peu la musique, donc très bien comprendre.
Là il faut défendre un peu les Français parce que nous ce qui nous a frappé en revenant comme ça de temps en temps, des fois seulement pour 15 jours et des fois pour comme cette fois-ci pour 6 mois, c'est qu'en France malgré tout on lit encore plus qu'en Italie ou en Allemagne.
Dans le métro, en tout cas, à Paris.
On parle uniquement du métro, là. C'est pas le reste.
C'est pas la France, ça.
On s'aperçoit que les gens dans le métro lisent des choses extraordinaires. Et c'est pas des professeurs ou des étudiants. Et ça, tandis qu'on revenait de Francfort, et dans le métro, les gens lisent le Canard du Soir, l'équivalent de Paris, je ne sais pas quoi.
François.
De François, de la presse de Monsieur Hersant.
C'est le Parisien.
Ça s'appelle le Parisien, ça s'appelle la Bild-Zeitung là-bas, c'est pas Monsieur Hersant, c'est Monsieur Springer.
Mais ce que vous avez dit, c'était très bien. Moi, je trouvais que c'était. C'est vrai que.
Oui, mais c'est à double tranchant, parce que ce qu'elle dit, d'un autre côté.
C'est comme ça qu'on a.
Il faut pas non plus. Je veux dire. C'est pas pour dégoûter les gens de lire, je veux dire. C'est pas. Disons, c'est le travail qui consiste à faire ce qu'elle dit et à avoir cette décadence-là. Il y a de moins en moins de gens qui lisent maintenant. Ça, c'est la sape du système capitaliste et de la télé et tout
la
ça.
Télé, bon. C'est un instrument.
Alors, je voudrais pas apporter de l'eau au moulin de cette dégringolade-là, parmi tellement de dégringolades, mais enfin, j'espère que ce que j'ai dit, c'est.
Disons que si les gens font une rencontre, enfin, moi, j'étais pas fille de prolo, mais. La culture, elle est quand même vachement inaccessible. Bon, par hasard, un jour à la radio, j'avais peut-être 16 ans, j'entends de la musique. Je n'avais pas entendu le début, donc je ne sais pas ce que c'était. Puis de toute façon, si je l'avais su, je n'aurais pas su qui était le monsieur. Et je me dis, non, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau. Et à la fin, on me dit que c'est Schoenberg. Et bon, bah là, évidemment, j'ai envie d'en entendre d'autres. Mais c'était une rencontre. Alors, si on a le privilège, la force, le temps... de pousser la rencontre. Voilà. Tant mieux, c'était mon cas. Et si on ne l'a pas, on a quand même au moins fait la rencontre. Mm-hmm. Et il vous en reste quelque chose, même si on ne continue pas à fréquenter le...
Moi, je crois que c'est ça.
Sans faire de l'ouvriérisme, ensuite, je m'arrête tout de suite. On a dit précédemment, avant autant, on a dit aux Allemands, parce qu'ils nous emmerdaient à l'époque, là, on a même dit Chronique d'un Magdalena Bar, c'est dédié au Viet Cong, c'était au moment du bombardement quotidien sur Hanoï. Et là, évidemment, on s'est fait ensuite complètement, comment est-ce qu'on appelle ça, censurer le film dans la presse, même libérale. Hein. Ça suffisait, parce que c'est tout juste, ils applaudissaient pas au bombardement sur Hanoï. Hein. Bon,
pas tous.
Non, je veux dire cette bonne bourgeoisie-là. Bon, et... là, on a dit parallèlement, par ailleurs, c'est un film qui est dédié aux paysans de la forêt bavaroise, voilà, qui n'ont jamais entendu de Bach, et on voudrait qu'ils aient l'occasion d'en entendre, parce que ou bien ils ne vont plus à l'église, ou bien il n'y a plus de Bach à l'église, ou bien, bon, voilà. Mm-hmm.
Non, mais c'est ça, le thème de Bach.
Là, c'était pour pas faire de l'ouvriérisme à propos d'autant.
Non, mais c'est ça, c'est pas une histoire d'ouvriérisme, c'est que, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire d'émotion, c'est une histoire de sensibilité, on est éveillé ou pas, il faut avoir le temps aussi, Salim, parce que c'est vrai, quand tu travailles 8 heures par jour, tu n'as pas le temps d'aller voir et d'aller écouter. Mais moi, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pris le temps, mais c'est vrai que j'avais été éveillée.
Qu'est-ce qui fait le système, en fait? Le système, il te vole ton temps.
Ah ben, c'est le temps de travail, tu appartiens entièrement à l'employeur.
Il te vole ton temps, il te vole ta force, et après...
Si tu ne travailles plus, tu n'es de toute façon pas en état non plus, parce que...
Et tu voles même tes loisirs, puisque tu es tellement crevé que tu n'as plus la force de...
Si ce n'est de regarder la télé.
On va écouter, donc, je le désannonce tout de suite, c'est Laura qui nous a amené ça, c'est un entretien, donc en anglais tu traduiras, t'écoutes bien.
Non, c'est un tout petit bout pour qu'on entende la voix de Schoenberg, en fait cet entretien, Jean-Marie Straub, c'est à Jean-Marie Straub et à Élie que nous devons.
Et qu'est-ce qui suit derrière, tu sais?
Il ne suit rien, puisque tu m'as demandé un tout petit peu d'entretien pour qu'on entende la voix. Alors il suit l'entretien entier. Bah alors,
c'est très court, tu traduiras.
Juste entendre la voix.
It may not be generally known that Mr. Schoenberg is a painter as well as a composer. Mr. Schoenberg, I understand that it was originally intended to exhibit some of your paintings at the same time as the performance of the music. Is that right?
Yes, it is right. But I have to correct something. I was a painter, perhaps, but I am not any longer a painter. I didn't paint for many, many years, but at least 2 or 3 decades. But here still, the whole afternoon, I was under the impression that I will be asked about my paintings. So I planned to tell you what painting means to me. In fact, it was to me the same as making music. It was to me a way of expressing myself, of presenting emotions, ideas, and other feelings, and this is perhaps the way to understand these paintings or not to understand them, they would probably have suffered the same fate as I have suffered. They would have been attacked. The same would happen to them what happened to my music. I never was very capable of expressing my feelings or emotions in words. I don't know whether this is why I did it in music and also why I did it in painting or vice versa. That I had this as an outlet, I could renounce expressing something in words. Does this answer some of your questions?
Yes, this does.
Simplement, il est interrogé sur sa peinture, puisque Schoenberg a peint.
Et, il a fait de très belles choses.
Ouais, il a fait de très belles choses.
En particulier, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est un... Je ne connais pas tous. Une femme avec des yeux rouges, ça s'appelle le regard rouge. C'est une femme qui a les yeux rouges de douleur. Et ça, ça rejoint ce qu'il dit de sa musique. Il dit que sa musique, il aurait voulu exprimer par sa musique le grand cri qui traverse le monde.
Je crois qu'on n'a pas grand-chose à dire.
Non,
de plus,
je crois que c'est même pas la peine de traduire.
C'est simplement, il est dans l'interview un peu plus générale, il dit simplement que la peinture, il se considère comme un autodidacte et un amateur, mais que ce qu'il a voulu, c'est exprimer de l'émotion et des choses un peu physiques. Je crois que ça rejoint.
L'émotion, des idées et d'autres sentiments.
Et d'autres sentiments.
Et voilà. Il dit mais en musique, là, je n'étais pas un amateur.
Et en musique, je n'étais pas un amateur.
Et cependant, il faut savoir qu'il a été en quelque sorte un autodidacte.
Quelque sorte, c'est ouais, méthodique, ouais, ouais. Parce qu'il vient d'une famille de marchands, ouais, et il apprend le violon, ouais. Et puis ça s'enchaîne comme ça.
Et après, il y a ce type insupportable là, qui lui dit, mais alors qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes de nos jours, monsieur Schoenberg, de partir de votre musique pour faire la leur? Et il dit non, surtout pas, et qu'ils fassent comme moi, qu'ils écoutent Bach, Mozart, Schubert et tout ça.
Voilà. C'est un bon conseil. Hein. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais revenir à des considérations peut-être un peu plus générales sur votre cinéma, et puis on arrivera tout à l'heure, donc d'ici un petit quart d'heure, donc sur les deux films qui sont à l'affiche, donc vos deux derniers films. Moi, ce que j'ai repéré comme ça dans vos films, c'est que rien n'est laissé au hasard. Alors peut-être que ça va vous faire hurler, mais je me lance. Il y a d'abord votre la découverte des textes et votre résistance donc à entrer, à dépouiller comme ça, à travailler sur le texte. Ensuite, il y a votre travail avec les acteurs. Il y a ce que j'ai appelé la stratégie de la caméra. C'est-à-dire qu'on a l'impression dans vos films que la caméra est à un endroit et elle ne peut pas être autre part. C'est l'endroit unique, il n'y a pas d'autre endroit. Ensuite, il y a peut-être la manière dont vous faites vos films, à la fois, ce qui est aussi une résistance au système, à la fois dans la production, mais aussi dans votre équipe, les gens avec qui vous travaillez, les gens avec lesquels vous vous entourez, et puis voire même les acteurs. Et puis après, c'est peut-être le dernier stade donc de la création, enfin de la fabrication d'un film, c'est dans la distribution, parce que vous êtes à la fois présent sur le terrain des laboratoires, mais ce que je trouve par-dessus tout intéressant, c'est que vous êtes présent souvent dans la salle après pour rencontrer les spectateurs. Ça fait long, donc on va peut-être remonter au début, c'est-à-dire en fait, sur le texte, Jean-Marie en a un petit peu parlé, mais sur, par exemple, l'emplacement de la caméra, cette stratégie quasi militaire.
Moi, je voudrais dire une petite chose, c'est que... Je suis pas d'accord avec la formulation « rien n'est laissé au hasard ». Le fait de travailler beaucoup et d'être précis, ça ne veut pas dire qu'on exclut le hasard, ça veut dire au contraire qu'on lui ouvre la porte. Parce que le hasard, c'est pas l'équivalent de n'importe quoi. Et le hasard ne se met à exister et à jouer avec vous que si vous lui avez fourni un cadre précis. Parce que sinon, il n'y a pas de hasard, il n'y a plus rien, il n'y a que de la confusion.
Ouais. Bon, on reprend peut-être.
Non, mais l'histoire de la position, en effet, ça devrait être le minimum de travail que fait n'importe quel cinéaste, n'importe qui fait un film, que ce soit le 30e ou le 1er. Parce qu'il faut savoir tout de même, c'est une question morale et politique. Il faut savoir comment on se situe par rapport au personnage qu'on filme. ou même au mur qu'on filme. Il faut, on peut pas être, indifféremment très loin ou très près, ou indifféremment à gauche ou à droite. On peut pas être, avoir indifféremment beaucoup de ciel ou pas du tout de ciel. On peut pas être indifféremment en plongée ou en contre-plongée. Il faut savoir pourquoi on le fait et à quel moment et quand on cesse de le faire, quand on se rapproche. Quand on élimine le ciel, ou quand on garde moins de ciel, ou quand on a plus de ciel, et quand on est plutôt à gauche, plutôt à droite. Et quand il s'agit d'un personnage qui parcourt le film, comme par exemple Karl Rossmann dans Rapport de classe tiré du roman de Kafka, qui s'appelle America, dans le commerce, ce roman-là, il raconte l'histoire d'un jeune garçon, bon, il faut qui subit quelques procès, carrément. Et il faut savoir, au cours de ces procès-là en particulier, de quel côté on est, c'est-à-dire ne pas se retrouver du côté des juges et de ceux qui le maltraitent carrément, il faut avoir un tout en filmant les juges et les bourreaux, il faut avoir un point de vue fraternel qui est plus proche. Il faut se retrouver du côté de l'accusé, du côté du jeune Karl Rossmann, et tout en ayant un point de vue sur les autres. Et le point de vue sur les autres n'est pas nécessairement un point de vue objectif. Ça peut être un point de vue agressif ou militant. Et il faut savoir comment le trouver.
Et d'où aussi, après, donc, la caméra c'est quelque chose, mais aussi les répétitions avec les acteurs. Enfin, c'est vrai qu'on a l'impression que vos acteurs, le travail, il n'y a plus de travail en fait, on a l'impression que c'est d'eux-mêmes, quoi. On a l'impression que le texte a été complètement digéré, et qu'après, c'est plus qu'un...
C'est vrai qu'il faut travailler jusqu'au moment où le texte fait partie de leur nerf, complètement.
On parle beaucoup du corps ces temps-ci, mais... Bon, si on a travaillé jusqu'au bout, à ce moment-là, le texte fait partie d'eux et ils expriment beaucoup plus leur individualité ou leur personne, ce qu'ils ont de plus
caché,
particulier, par des textes qui sont pas d'eux que s'ils racontaient leur vie. C'est ça qu'il faut obtenir, et pour ça, ben il faut que ce texte-là. Faut l'exproprier à la page écrite, faut l'exproprier même à celui qui l'a écrit, et il faut l'exproprier
écrite
le texte, pas la page. Et il faut que celui qui a travaillé se l'approprie en fin de compte et qu'il en fasse sa chose, tout en gardant une certaine distance et qu'il ne donne pas l'impression qu'il raconte sa vie en servant du texte d'un autre.
Oui, mais ça ne vaut pas seulement pour les textes et pas seulement pour nous. Vous savez, Chaplin filmant une poursuite, c'était des fois 120 prises. Hein. Nous, on n'a jamais atteint ça. 120 fois. Ce n'est pas étonnant que ces films, quand on les voit, on se dit le plus grand monteur de l'histoire du cinéma, ce n'est pas Eisenstein, c'est Chaplin.
Il faut que les textes soient tellement travaillés qu'ils sachent quand ils bougent ou qu'ils se déplacent ou qu'ils lèvent les yeux ou les baissent quand leur corps se met à commencer à brûler, où ça se passe. Et pour ça, il faut répéter beaucoup jusqu'à ce que ça devienne en quelque sorte mécanique. Et là, la liberté revient au galop. Grâce à cette mécanique et par-delà cette mécanique.
Mais pourtant, quand on voit vos acteurs dire les textes, il n'y a rien de mécanique. Hein. Du tout, hein.
Ben j'espère. J'espère parce que la mécanique c'est pas le but, c'est une méthode, c'est le moyen pour arriver à la liberté.
Mais un musicien, il s'exerce. C'est ça qui est difficile avec les acteurs professionnels, c'est de leur faire admettre que c'est pas différent des musiciens, qu'il faut qu'ils exercent, et que ça n'est que lorsque ils domineront complètement leur technique et que leur texte ou leur geste.
Simplement un pianiste, s'il n'arrive pas à une mécanique de ses mains, et de ses nerfs, et de son cerveau, et de son corps, eh bien, il ne peut pas tout d'un coup exprimer ce qu'il y a dans la partition ou ses propres sentiments.
Moi, je voudrais dire que ce qu'on voit bien, un des films où on voit bien que le travail, c'est ce qui donne aussi ce qui arrive à communiquer cette émotion, par exemple dans la chronique d'Anna Magdalena Bach, quand on voit les pieds de Gustave Léonard travailler autant. Je crois que j'ai jamais vu un film qui nous montre combien la musique, c'est du travail, et combien ensuite on peut être ému par cette musique. C'est-à-dire que moi, je dis pas qu'au départ, par exemple, vos films, je comprenais tout. Parce que les premières fois que j'ai vu vos films, non mais c'est attends, c'est vrai, Salim. Parfois, il y a des choses. Bon, même il y a des films de Godard. Parfois, je comprends pas. Je suis émue, par contre. Donc, j'essaye de comprendre pourquoi il y a une émotion, quelque chose de physique qui passe. Alors après, donc, c'est comme une espèce de grâce. T'es touché par la grâce ou pas? Bon, il y a des trucs. Moi, je suis complètement imperméable. Bon. Mais là, on sent bien qu'il y a une nécessité interne, que c'est organique, que c'est fluide, et il y a une vibration, il y a quelque chose de fort qui passe. Et je crois que quand on voit Chronique d'Anna Magdalena Bach, qu'on voit Gustave Léonard, la force physique, le travail qu'il faut mettre pour pouvoir jouer la musique, c'est là, je crois, où on voit le plus qu'entre l'émotion produite par l'œuvre d'art est liée à un travail. Et à mon avis, c'est là qu'on voit que les choses n'arrivent pas comme ça à tomber du ciel. C'est exactement le contraire d'Amadeus, c'est pour ça que je déteste ce film. J'ai l'impression que c'est hop, il se lève le matin comme ça, et puis hop, la musique est là. Quoi. Je veux dire, c'est l'histoire du génie, du don, du je sais pas quoi. Non, il y a du travail, et je trouve que vos films le montrent, et que quelque part, ça aussi, ça démocratise quelque part aussi l'œuvre d'art.
Oui, parce que Gustave Léonard, quand on le filme, c'est comme si on filmait le travail de l'influx nerveux.
Et en plus, c'est l'idée, au fond, n'importe qui pourrait y arriver à condition d'avoir
autant de patience.
Voilà. Et ça, en effet, ça va à contre-pied du film de Forman, mais c'est aussi à contre-pied d'une partie du cinéma américain. Parce que ça, l'aspect Walt Disney, ça consiste justement à faire croire aux gens que les choses
arrivent comme ça.
Un claquement de doigts,
ouais.
Et c'est parti.
Oui,
c'est
ça, mais... ou alors que l'art, c'est réservé
à une élite douée. Et je trouve que c'est là où, effectivement, votre cinéma va à contre-courant de ça. C'est que il est bien dit, d'abord, la manière dont vous travaillez et le résultat, c'est que l'œuvre d'art, c'est du travail avant tout. Et c'est pas le truc de l'élite. Moi, je crois que c'est le contraire qui est dit là.
C'est une constante là, dans tous les films. Enfin,
oui, parce que c'est pas l'objet qui t'arrive tout cuit, t'as plus qu'à mâcher.
Ouais, le film.
Non, c'est dans tous les films, dans tous vos films, c'est ça.
Vous voulez dire le film que...
Dans tous les films que j'ai vus, enfin.
Ah, non, je crois que vous voulez en citer en
particulier. Non, j'ai pas tout vu. Non, j'ai pas tout vu. Et aussi, moi ce que, un truc qui résiste aussi, le fait que vous résistez donc au système, vous battez avec le texte qui vous résiste et tout, mais parfois aussi, vous allez contre la résistance du public. Parce que c'est vrai que quand, la première fois qu'on voit un de vos films, moi je me souviens, c'était La mort d'Empédocle, la première fois que je vois un de vos films...
Dur début.
Oui, je suis désolé, c'était le seul moment où je commençais à m'intéresser donc au cinéma de manière un peu plus... un peu plus forte et un peu plus
passionnelle. C'était très dur, mais c'était pas mal tombé, parce que c'est le premier film où on délivre un message.
Bah, oui,
ce message-là, c'est ce que moi j'appelle l'utopie anticommuniste.
L'utopie quoi?
L'utopie communiste qui est la seule capable de sauver l'humanité et la planète.
Hein, grand débat sur Radio Libertaire,
attention. Non, c'est pas... C'est vrai, je trouve qu'il dit ça. Hein,
je pourrais dire la même chose, moi.
Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est ça. C'est vrai que la première fois qu'on rencontre un de vos films, on est un peu désarçonné, comme quand on rencontre des textes un peu difficiles, et qu'on se dit, mais merde, il y a quelque chose, il y a des choses qui me passent dessus, mais Laura parlait d'émotion tout à l'heure, et puis on va fouiller, et puis on donne une deuxième, une troisième chance, voire une quatrième chance. Moi, je pense à Julien Gras, qui est un écrivain français, et qui, moi, la première fois que j'ai lu un de ses textes, ben, je suis passé à côté. Mais je me suis dit, il y a quelque chose là, il faut que j'aille voir. Et donc, vos films, c'est un peu ça. Et souvent, on vous est taxé de cinéaste difficile. Et comment vous réagissez à ça? J'aime bien parce que dans les salles, souvent, il y a toujours un ou deux spectateurs qui se jettent.
On réagit à ça en étant très triste. C'est pas compliqué. Parce que c'est pas du tout ce qu'on veut.
Et surtout, c'est utilisé pour faire en sorte que des gens qui pourraient être comme vous touchés, parce que on n'est pas des oiseaux extraordinaires, donc il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses en commun avec nous. Par conséquent, s'ils avaient l'occasion de voir les films, je dis pas que ça leur plaira ou non, c'est pas ça la question, c'est justement qu'ils seraient touchés par quelque chose, et puis ensuite, s'ils peuvent, ils continuent. Mais s'ils n'ont pas l'occasion de savoir seulement que ça existe, parce qu'on utilise l'histoire austère, difficile...
C'est pas compliqué, ça, on réagit comme des gens à qui on impose, on accole l'étoile jaune ou l'étoile rouge, ou attention, rigueur, etc., difficile, méfiez-vous... C'est une forme de ségrégation, tout simplement.
Et ça, vous le ressentez à la fois chez les spectateurs, mais est-ce que dans la distribution ou chez les professionnels?
C'est surtout ça qui est grave. Les spectateurs,
c'est ceux-là qui nous accolent l'étoile jaune ou l'étoile rouge.
Et pourtant,
nous, on pense que nos films, je crois que c'est ça qui les gêne. Premièrement, ils traitent le spectateur en citoyen et pas en cochon de paix. Deuxièmement, par conséquent, il laisse le spectateur libre de décrocher et même de quitter la salle. Or, l'ensemble des films commerciaux, même quelques films plus qu'estimables, ça consiste à ficeler les gens dans leur fauteuil.
À les rapter.
Ouais. Mm-hmm. Bon. Et alors, ça ne plaît pas à la profession, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens, justement, ne sortent pas de leur salle. Mmh. Ça, c'est pas seulement le propriétaire de la salle, c'est aussi le distributeur. Mmh. Voilà. Mais alors, nos films pourraient très bien, si on vivait dans une société, disons, seulement vaguement démocratique, hein, et pas en économie de marché.
Qui un partage des richesses.
Ouais, en parlant d'économie bourgeoise. C'est des films qui pourraient hardiment rapporter deux fois ce qu'ils ont coûté. Mmh. S'ils étaient distribués normalement, si tous les films naissaient égaux en droit de distribution. Mais c'est ça qui les gêne, parce que ça les intéresse pas. Ils font des films parce qu'ils n'ont pas mis d'argent dedans, puisque nous, on se bat X années pour que le film soit complètement financé. Et que le producteur, qui dans certains cas nous accueille comme un toit, pour éviter que sur la pellicule on paye la TVA parce qu'ils se la remboursent, ou sur les labos, etc. Mais ceux-là n'ont jamais mis un sou dans le film. Hein. En fin de compte, ils peuvent même, si en général il y en a plusieurs qui ont pu se mettre 10 ou 20 000 marques dans la poche quand c'était fini, parce qu'on a toujours eu un peu de chance avec le plan de travail et les conditions atmosphériques, etc. Alors on n'a jamais eu un jour de dépassement, au contraire souvent deux jours d'avance sur le plan de tournage, etc. Donc il n'y avait pas de surprise, donc le financement couvrait tout le film. Mais ça n'intéresse pas les marchands de soupe, un film. Ce qui les intéresse, eux, c'est quand ils ont de l'argent dedans. Et quand ils risquent de l'argent, ils risquent également de l'argent pour faire de la publicité, pour imposer les produits et faire en sorte que les gens aillent les voir, ou au moins les connaissent. Nous, ça nous ferait un peu honte qu'on les force par des moyens de matraquage d'aller les voir. Mais ce qu'on voudrait simplement, c'est un minimum d'informations. Et ça les intéresse pas. Ils préfèrent perdre de l'argent avec 9 films, comme des gens qui jouent à la loterie, autant d'Hollywood, parce que de nos jours, c'est même plus des joueurs. C'est des margoulins qui jouent avec des ordinateurs, etc. Bon, mais ils préfèrent un film où ils gagnent 10 fois ce que ça leur a coûté. Mais là, non seulement ils récupèrent leur argent, mais ils s'enrichissent.
C'est du capital partout.
De Radio Libertaire 89.4, l'émission touche doucettement à sa fin, et comme promis, on pourra vous parler, donc on va faire une petite parenthèse tout à l'heure sur la programmation aux actions, mais on va revenir quand même sur les deux films qui sortent en même temps, c'est Lothringen, et puis Du jour au lendemain. Alors Lothringen, ça fait quand même un peu, après tout ce que vous avez raconté sur la résistance, sur le capitalisme, machin, là vous attaquez de front à quelque chose qui est le nationalisme avec Barrett.
Là, on résiste au capitalisme.
Ouais, mais on montre aussi toute la vallée, beaucoup de villages de la vallée de l'Orne et de la Fensch, où les usines sont abandonnées et où la moitié de la population est partie. On le montre en montant...
À l'image.
À l'image.
En montrant les villages où les Allemands, c'était pas les nazis, c'était les Allemands, ça c'était 70-1914, voulaient interdire l'enseignement du français. Il se trouve que dans ces mêmes villages, les Allemands ont renoncé à l'interdiction du français, les nazis ont recommencé, mais par contre, depuis, il y a eu la catastrophe de l'écroulement de l'industrie, et c'est la ruine.
C'était soi-disant l'avenir de l'économie française. Et bon, maintenant...
C'est un film quand même...
Les seules usines qu'on voit encore... Les seules usines qu'on voit encore filmées dans l'avant-dernier paysage... Fumées dans l'avant-dernier paysage qui est un village... c'est les fumées qu'on voit à l'horizon avant qu'on voit quelque chose qui n'est plus un village mais une forêt ou les premières mines de fer bien avant les Devindel ont eu lieu, c'était des mines de fer à ras de terre où les Mérovingiens ont commencé à exploiter un peu le minerai de fer et ensuite la bourgeoisie napoléonienne est arrivée là, mais le premier Napoléon, pas le second. Et ils avaient des petits wagonnets, des rails, et c'est tout, ils n'ont pas beaucoup creusé. Bon, et là, avant, il y a un dernier village, après qui termine la série des villages qu'on montre dans le film, et les seules fumées qu'on voit à l'horizon, c'est des fumées qui sont de l'autre côté de la frontière, c'est les usines du Luxembourg qui fument encore.
Les Françaises ne fument plus.
Celles-là, elles ne fument plus.
Et c'est...
Et non seulement elles ne fument plus, mais ceux qui les faisaient fumer, ben, il en manque la moitié parce qu'ils ont dû partir, étant donné. Et ceux qu'on voit et qui restent, ils ont des petits jardins.
Et des poules.
Et des poules. Ils sont des petits jardins de rentiers et d'ouvriers avec des petites maisons. Voilà.
C'est là où on entend et on voit combien c'est un rapport au réel, les films de Jean-Marie Straub et d'Anne Huillet. C'est Lothringen. Dans la bande-son, on entend tout ce dont Jean-Marie Straub vient de parler. Mm-hmm. Les poules caquetées constamment.
Et sur l'image, on voit les usines.
Et on voit les usines.
Et c'est votre point de vue sur l'Europe, puisque c'est quand même...
Ouais, je pense que ce film-là part de l'idée, veut dire tout simplement l'Europe qu'on nous impose... en fait, elle a commencé sur le cadavre de 30 000 Parisiens parmi les meilleurs qu'on a appelés communards. Et ça n'est que lorsqu'on les avait massacrés que ça a commencé. Et on les a massacrés avec l'aide de Bismarck qui regardait Paris brûler côte à côte avec M. Thiers du haut des terrasses de Saint-Cloud. Et une fois qu'on avait liquidé cette résistance-là, eh bien, on a commencé à... développer.
Œuvrer.
Et
pourquoi
alors la résistance précédente à celle-là, qu'on a dû également liquider, celle-là, d'une manière un peu moins violente, on a forcé M. Bazaine à capituler à Metz. Et l'armée du Rhin, qui était là concentrée à Metz, n'avait pas du tout envie de capituler. Et on les a forcés à capituler. Une fois que ça s'était fait, on était tranquille et hop, c'est les Parisiens qui continuaient à résister. Bon. Et ça s'est lentement transformé en commune, et il a fallu liquider ça pour deux raisons. D'abord parce que c'était une résistance nationale, et ensuite parce que c'était la commune. Mmh. Voilà. Et on doit quand même rappeler que Metz est probablement, peut-être, en tout cas une des rares, mais peut-être la seule ville de province en France où il n'y a pas de rue tiers, ce bandit. Et il n'y en a pas non plus à Paris, une rue tiers.
Non, il y a une tombe qui est profanée de temps en temps.
Ah bon. Mais au moins, il n'y a pas de rue.
Non.
On a encore une place Stalingrad et un métro Stalingrad, mais on a plus de rue tiers. On n'a pas de rue tiers.
Ah, mais il n'y a pas non plus de métro Konstantin.
On n'a plus de rue Leningrad. On n'a plus de rue Leningrad. Celle-là, elle a été débaptisée. Ouais. Mais sur l'âge près, à Berlin, il n'y a plus de bateau de mouche qui s'appelle Bertolt Brecht. Ouais. Vous savez comment il s'appelle maintenant? Ils l'ont débaptisé immédiatement. Ça a été très vite, quelques semaines.
Ouais, il doit s'appeler, je ne sais pas moi...
Toscanini, tout simplement.
J'allais dire, il monte quand même bateau mouche, tu sais, sur la scène.
Ouais.
Et pourquoi Barès alors? Pourquoi cet auteur?
Bah, parce que c'était un Lorrain qui était pas de la région de Metz, mais des Vosges, et qui... après tout, il avait un passé un peu anarchiste, hein, faut pas exagérer. C'est pas parce qu'il a basculé plus tard dans autre chose, et ensuite même... une fois dans la canaillerie antisémite, à l'époque où il a écrit ce roman, il était absolument pas antisémite.
Et le roman, c'est comment?
Colette Baudoche.
Le roman s'appelle Colette Baudoche et ça raconte l'histoire de Colette qui, à la fin, refuse d'épouser, au bout de 35 ans, un colonisateur, un occupant allemand qui est un professeur, qui aime beaucoup la France, et dont, auquel elle dit « Je vous estime, je vous garderai une grande amitié, mais je ne peux pas être dans le monde. » Donc elle refuse de l'épouser.
Ce film, c'est une commande ou quoi?
Oui, c'est une commande, mais pas en tant que telle. C'est-à-dire qu'il y avait une soirée thématique sur Arte, ils ont appris à la dernière minute que tu es programmé depuis 6 mois au moins, parce que tout ça... Bon, à la dernière minute, ils ont appris qu'il y avait là un cinéaste qui était originaire de Metz, et il y a un rédacteur de la télé de Sarrebruck qui m'a téléphoné en me disant « Alors, est-ce que c'est vrai que vous êtes de Metz ?» J'ai dit « Oui, oui, mais il y en a d'autres qui le savent en Allemagne. » Et il m'a dit « Ben voilà, on fait une soirée thématique, faites quelque chose. » J'ai dit « Quoi ?»« Oh ben, faites 3 heures, 2 heures, 1 heure. » Où je lui ai dit, si je vous fais 3 minutes, vous faites ce que vous voulez. Et puis après, j'ai eu cette idée-là. J'ai lu un roman que je n'avais pas lu à l'époque, où mes parents le cachaient quand il y avait un coup de sonnette chez nous pendant la seconde occupation, c'est-à-dire celle de 39-45.
À propos d'éveil, moi j'ai envie de lire le bouquin de Barrès, du coup, parce que je trouve que les choix de textes qu'on entend là, justement, m'ont donné une autre image de Barrès que celle de ce cliché de cet écrivain d'extrême droite, vous parlez de Canada, etc. On a envie de lire Colette Bedoche, en tout cas. Moi, ça m'a donné envie de lire.
Je suis un peu déçu quand même.
Non. Peut-être.
Mais d'y aller voir au moins.
D'y aller voir ce que c'est. Quoi.
Voilà, d'y aller voir ce que c'est.
Quand j'ai fini mon travail tout seul dans mon coin, j'ai dit à Daniel, qui n'avait pas non plus lu le roman, et qui ne savait même pas qui était Barrès, parce qu'elle n'est pas de Metz, de lire le roman et de voir ce qu'il y avait recopié sur une feuille de papier à la plume. Et elle a lu le roman et qu'est-ce que ça a été là?
Ouais, j'ai dit que selon moi, il n'y avait pas autre chose à garder que ce qu'il avait gardé. C'est-à-dire finalement pas grand-chose.
Ça veut pas dire que le reste est méprisable, mais enfin, c'est pas notre affaire, disons.
D'accord. C'est autre chose.
Oui, on n'en aurait jamais tiré quoi que ce soit.
On va venir à...
On s'en serait même pas mal méfié.
On va venir au deuxième film qui fait le complément de programme, parce que c'est un peu un petit mot pour complément de programme. Ce qui fait le gros morceau, en fait, c'est Du jour au lendemain. C'est un opéra en un acte donc, de Schoenberg, donc c'est le retour à Schoenberg, un peu. Puisque vous avez déjà...
Oui, c'est une vieille amitié.
Une vieille histoire.
Et ce dont j'aimerais que Jean-Marie Straub et Daniel nous parlent, parce que je les ai déjà vus il y a un petit bout de temps, à propos de ce film, ils m'ont parlé du livrettiste, notamment de Max von Blondin.
C'est sa femme, la seconde femme.
Alors, ça, j'aimerais beaucoup qu'on en parle, parce qu'effectivement, là aussi, la curiosité est en éveil, parce que, on a là un très beau film, et on a, au départ, aussi une très grande œuvre. Donc...
c'est très simple, on était très contents pour la première fois de notre vie d'avoir l'occasion de partir d'un travail fait par une femme et pas par un représentant du pouvoir. Voilà.
Ça se voit dans la stratégie
de nos jours, il y a des femmes comme Margaret Thatcher, mais enfin ça c'est autre chose.
C'est quand même encore une exception, ouais. Madame de Fer.
Ouais.
Oui, dès qu'elles ont le pouvoir, c'est non. Pas une garantie.
Ah ben, c'est comme la social-démocratie. C'est comme la social-démocratie, elles veulent prouver qu'elles sont capables de faire mieux que les hommes. Mais c'est pas compliqué. Voilà.
Elle assassine Rosa Luxembourg et Liebknecht en premier.
Ben, t'es voir que c'était une femme. Hein.
Ah, oui, moi je vous dis que c'en est une. Et je vous dis même que si elle était restée un peu plus longtemps que 32, ils ont passé 6 mois... à Paris, après avoir quitté l'Allemagne, avant de se décider à partir aux États-Unis, et là, Schoenberg a voulu.
Non, mais je parlais de Thatcher. Hein, je crois que
c'est probable que c'est pas une femme. Ouais, c'est d'accord. Ouais.
Non, Max Blondin est une femme, on peut vous l'assurer, puisque c'est la seconde femme de...
Non, mais on peut peut-être entendre ce que Jean-Marie Straub a à nous dire sur Gertrude Schoenberg.
Donc. Absolument.
Oh, je ne sais pas. Non, mais... Qu'est-ce que je voulais dire?
Non, mais simplement, il faut quand même rappeler...
Comme à Paris avec Schoenberg.
Il faut situer quand même Schoenberg. C'est que c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de son début, de son enfance, de l'autodidacte. Il ne faut pas non plus oublier que, comme pas mal d'intellectuels, musiciens, pas mal de gens d'ailleurs, ils ont fui le nazisme dans les temps sombres, comme disait Seguin dans un bon papier.
Écoutez, c'est très simple, très concret. Dès 1933, le docteur Goebbels a organisé à Düsseldorf qui est une ville haut huppée en Allemagne, l'équivalent d'un 16e arrondissement au niveau de toute une ville.
Une ville de la Roue. Hein.
Et il a organisé là la première exposition de l'art désartifié, comme il l'appelait, entarted. C'est-à-dire de l'art qu'on montrait du doigt en disant, regardez, c'est pas de l'art. Parce qu'il n'osait.
C'est comme monsieur machin, là, comment il s'appelle, Maigret, comme l'inspecteur. Oui. Disons, les prétendus artistes.
Alors là, qui est-ce qu'il y avait là-dedans en tout premier? C'était Schoenberg. Il n'y avait pas que des juifs d'ailleurs. Il y en avait un qui n'était pas un juif, qui s'appelait Paul Hindemith. Hein. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il faut quand même le dire, ça. Il y a un grand musicien que même Schoenberg estimait au point de départ, qui s'appelle Richard Strauss.
Non, c'est pas un grand musicien.
Bon, Daniel le déteste en tant que musicien. Quand, dès qu'elle en entend, elle se contorsionne et elle veut tourner le bouton de France Musique.
Oui. Même ça, je sais pas que c'est lui. Hein.
Bon, oui, elle le reconnaît tout de suite, même sans connaître l'œuvre qu'on entend par hasard en ouvrant le bouton. Mais ce bonhomme-là, et on le savait pas, et avant qu'elle réagisse comme ça, elle le savait pas, donc c'est une réaction de sensibilité, et pas seulement féminine. Ce garçon-là, il a envoyé à ce moment-là un télégramme de félicitations à monsieur Goebbels pour Schoenberg. Et il avait dit de Schoenberg quelques années auparavant que c'était un schizophrène qu'on devrait enfermer dans un asile d'aliénés. Ça va loin. Et ce même Richard Strauss, pas par hasard, un beau jour, je ne sais pas en quelle année parce que je n'ai pas étudié sa biographie, a été nommé chef de la musique du Troisième Reich. Hein,
c'est pas mal.
Directeur.
Il y avait Schoenberg, qui est donc cet artiste qui a on dit révolutionné la musique, quand il y a eu Vienne la Rouge, des concerts qui étaient donnés pour les ouvriers.
Oui, exactement.
Et Schoenberg jouait
de la musique. C'était Alban Berg et Webern. Et ça leur a coûté beaucoup d'argent.
Et Webern avait un cœur d'ouvrier. Ouais. Avec lequel il a travaillé énormément.
Et il travaillait sa musique, qui est une musique plus difficile que nos films. Hein, ça. Alors là... Et il voulait intéresser les ouvriers à ce travail-là.
Il faisait des concerts gratuits pendant l'expérience de ce qu'on a appelé Vienne la Rouge.
Et ils payaient ça de leur poche. Hein. Et ils répétaient, plus que l'industrie culturelle et les nobles musiciens de nos jours, Boulez, quand il va à Londres diriger un concert, il a dit déjà il y a de nombreuses années que ce qui lui était permis de faire, c'était de répéter une œuvre sur quatre qui constituait la soirée. Une œuvre. Le reste était improvisé le soir même. Hein. C'est là qu'on en est avec l'industrie culturelle. Mmh. Et ces gens-là travaillaient des semaines sur un petit bout de musique pour les ouvriers.
Pour les ouvriers.
C'est ça qui est pas mal.
Moi, je trouve qu'il y a pour revenir à du jour au lendemain, je voulais dire peut-être en allemand, mais comme j'ai un allemand exécrable,
c'est exactement l'équivalent du dicton allemand du jour au lendemain, sauf qu'en allemand, littéralement, ça serait d'aujourd'hui à demain. Voilà.
Il y a un parallèle quand même avec le Lothringen, c'est que ça commence presque par le même mouvement d'appareil, puisque on a comme ça un mouvement presque à 360.
Oui, mais dans Lothringen, on part d'un monsieur qui est sur un cheval, qui est celui qui vient à peine de se faire couronner empereur d'Allemagne, aux dames de bien des régions d'Allemagne, parce que les Rhénans n'en voulaient pas tellement. Et justement, c'est au confluent de la Moselle et du Rhin à Coblence. Où les réfugiés de 1789 se sont retrouvés, on les voit dans la Marseillaise, qui chante là, et c'est à Coblence. Bon. Et là, la Moselle se jette dans le Rhin. Et là, ils ont érigé un monument, on voit un monstre sur un cheval monstrueux en bronze, sur un socle de granit encore plus monstrueux, qui restait, parce que le monument il a été détruit par un Américain. Et il y a un éditeur allemand... bien militant et bien de droite, qui a consacré toute sa vie et le reste de sa fortune, il n'a pas vu l'inauguration, à payer la restauration.
Ça lui a coûté la vie.
Et ça, c'est l'empereur d'Allemagne, qui était le petit roi de Prusse. Et il s'est fait couronner empereur d'Allemagne à Versailles, avec la bénédiction des Français, de M. Thiers, en remerciement de l'écrasement des communards.
Les Versaillais se ressemblent tous.
Voilà. Alors là, on le voit et on passe sur le Rhin, et ensuite on fait presque 360 degrés pour revenir en arrière vers la Moselle. Et la Moselle coule dans le Rhin, mais la caméra la remonte, on va en direction de quoi? La première grande ville qu'on retrouve au bord de la Moselle.
Je crois que c'est
Metz. Non, mais la première grande ville, c'est Trèves.
Trèves,
et Trèves, c'est la ville natale de Karl Marx.
Ah ben voilà.
C'est pas rien.
Ouais, mais c'est
alors,
c'est
très bien.
Et après, il y a Metz. Et qu'est-ce que c'était que
Moi, je connais Metz, la ville natale de Jean-Marie.
Tu connais pas la ville natale de Karl Marx.
Il y a quelqu'un d'autre qui est né à Metz, dans la maison à côté de la sienne, et c'est Paul Verlaine.
Ouais.
C'est celle où j'ai grandi,
donc, elle où habite encore mon vieux père.
On va faire une petite pause.
Cette rue s'appelle rue aux ours. Et juste en face, le coin de rue, il y a deux maisons de distance. L'autre rue s'appelle rue Haute-Pierre. Nous, c'est rue aux ours et Verlaine est né rue Haute-Pierre.
Et en face, il y a le club des officiers.
Quelle horreur. Est-ce que je voulais dire...
On va faire une petite pause, Jean-Marie, et on revient après. Parce que
pour en finir, c'est que Metz et Trèves étaient jumelés par les Romains. C'est les villes où il y avait les deux plus grands amphithéâtres dans le nord de l'Europe. Et celui de Trèves est encore là, mais celui de Metz, l'empereur l'a dynamité pour construire la gare de Metz. Voilà.
Ah, d'où la gare. On voit la gare dans votre film, je crois.
Voilà, oui. C'est ce qu'ils ont construit au bout de... c'est des bâtiments de 1900-1906. La poste, la gare, un temple protestant de